Philippe Nanzer.
Volodymyr Zelensky a salué ce soir les résultats qu'il a qualifiés de brillants de l'attaque de drones coordonnée menée aujourd'hui par ses services contre des aérodromes militaires en Russie. Selon Kiev, une quarantaine de bombardiers stratégiques, des bombardiers utilisés pour justement bombarder les villes ukrainiennes, ont été touchés, voire détruits. Les objectifs visés sont situés jusqu'en Sibérie, c'est-à-dire à environ 4300 km de la frontière russo-ukrainienne. Le président ukrainien a par ailleurs assuré que les agents impliqués dans la préparation de l'attaque ont été exfiltrés du territoire russe à temps. Scrutin présidentiel aujourd'hui en Pologne. Selon les premières tendances, le candidat pro-Union européenne et son rival nationaliste sortent du second tour au coude à coude. Selon un sondage effectué à la sortie des urnes, l'écart est tellement infime entre les deux candidats qu'il ne permet pas encore de désigner le vainqueur. L'armée israélienne a nié avoir tiré ce matin sur des civils à proximité d'un centre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne, elle, affirme le contraire, et fait état de plus de 30 morts ainsi que de plusieurs blessés à la suite de ces tirs israéliens. Le Suisse Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, une organisation onusienne interdite en Israël depuis le début de l'année, déplore que la distribution d'aide humanitaire à Gaza soit devenue, je cite, un piège mortel. Et sur le plan diplomatique, le Qatar et l'Égypte annoncent ce soir vouloir intensifier leurs efforts en vue d'une trêve. Et puis, dans une lettre commune, 56 anciens diplomates suisses se disent choqués par ce qu'ils décrivent comme le silence et la passivité de la Confédération suisse face à ce que les signataires désignent comme étant des crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Ces diplomates exigent des mesures immédiates contre le pays hébreu. Le FC Bâle a remporté la Coupe de Suisse de football cet après-midi pour la 14e fois de son histoire. C'était au stade du Wankdorf à Berne, où Bienne n'a certes pas démérité, mais il a été battu sur le score de 4-1. Éliminé par les Biennois en demi-finale, les Lausannois du Lausanne Sport sont l'autre grand gagnant de ce premier dimanche de juin, puisque le doublé du FC Bâle, c'est-à-dire la victoire du championnat et en coupe, ouvre aux Lausannois les portes de la Conference League avec une entrée en lice dans le deuxième tour qualificatif qui se commencera le 24 juillet. Et dans la foulée de leur défaite, les joueurs du FC Bienne ont été accueillis ce soir par des centaines de supporters sur la place du Général Guisan à Bienne. Ils ont ainsi fêté leur parcours, qualifié l'historique en Coupe de Suisse. Cyclisme, Simon Yates a remporté le 108e Giro en ce début de soirée. Le Britannique a triomphé avec près de 4 minutes d'avance sur le deuxième, à savoir le Mexicain Isaac Del Toro. Cette 21e et dernière étape du Tour d'Italie a été remportée au sprint par le Néerlandais Olav Kuij. Météo, la soirée et la nuit s'annoncent nuageuses et parfois et par endroits orageuses. Demain, le ciel continuera d'être couvert, toujours avec des averses, dès le matin. Au niveau des températures, le thermomètre redescendra aux alentours de 20 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute A13, San Bernardino en direction de Coire, soyez prudents entre Ander et Tsilis dans les deux sens car on nous signale toujours des piétons sur la chaussée.
Envie de plonger dans les coulisses de l'info ? Le samedi 7 juin, la Gourtzellen de Bienne devient le cœur battant du tout premier festival de journalisme en Suisse romande, le Prestival. Journalistes, correspondants à l'étranger, podcasteurs, rencontrez celles et ceux qui font l'actualité. Toutes les informations sur prestival.ch. Vous rêvez de vous glisser dans la peau d'une ou d'un journaliste ? Grâce à l'atelier interview pour changer le regard sur le handicap, organisé sur place par la RTS, c'est possible. Détails et inscriptions sur avecvous.rts.ch.
Écosystème. Une émission de Florence Farion.
Pour parler du sujet du jour, je n'ai pas trouvé mieux que de citer les propos de notre invité, car ils disent tous les enjeux et les difficultés. Je la cite. « À force d'être éparpillée dans des rôles multiples, bousculée par l'agitation du quotidien, basculée par des problèmes de santé ou ébranlée par des situations stressantes, il nous arrive d'avoir l'impression d'en faire trop, de tourner en rond, d'avoir perdu notre direction. Garder notre cap nous oblige à identifier et avoir la sagesse de nous ajuster par vents et tempêtes. Pour cela, nous devons orienter vers ce qui a du sens pour nous, aiguillonner notre motivation, détermine nos intentions. Alors à chacun ses stratégies, la démarche consiste à identifier les trucs et les astuces et à maintenir certains en place, à préserver, à être inventif, s'adapter et adopter ce qui nous convient et se féliciter de son chemin. » Voilà, j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, ça va s'éclairer jusqu'à 14h. Prêtez attention à son attention avec intention. Ce sera le but de cet échange. Bonjour et soyez les bienvenus. Nos cerveaux sont en surcharge, ils sont débordés. Comment est le vôtre? Je ne suis pas certaine que vous en ayez vraiment conscience, et moi non plus d'ailleurs. Bonjour Annick Vincent.
Bonjour.
Autrice de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Homme, Mon cerveau a besoin de focus. Je vais vous présenter, vous êtes une dame très sérieuse, avec plein de compétences, avec un accent québécois puisque vous nous venez d'outre-Atlantique. Est-ce qu'on a suffisamment conscience du débordement de nos cerveaux?
Je pense qu'on commence à en avoir conscience, mais souvent on est comme démuni. Ah, mais comment je vais faire? Je me sens en surcharge, je me sens bousculée, je me sens bombardée. Et puis le but du livre, c'était justement ça, d'avoir une discussion autour de ben, qu'est-ce que l'attention, bien comprendre et je dirais, j'invite à la découverte un peu du monde de l'attention et de tout ce qui peut la mobiliser ou l'impacter. Et par la suite, dans la deuxième section du livre, on est en mode action. Donc là, ouais. On se mobilise.
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Médecin psychiatre, vous êtes fondatrice d'une clinique qui s'intitule Focus. Et c'est d'ailleurs un clin d'œil que vous faites dans le titre de votre ouvrage, Mon cerveau a besoin de focus. Donc aux éditions de l'Homme, maintenir sa concentration malgré les obstacles. Vous avez quelques 30 ans de pratique, on va dire, Annick Vincent, c'est à peu près ça?
Tout à fait, oui.
Vous êtes aussi plus habituée, enfin vous êtes une grande spécialiste des TADA, ces troubles de l'attention. Est-ce qu'on peut dire que le TADA, c'est le plus haut niveau qu'on puisse imaginer de troubles de la concentration? Et puis nous, humains ordinaires, on en a quand même, mais ça ruisselle de manière différente, évidemment.
En fait, c'est différent. Ceux qui ont un TDAH ou un TADA, comme on dit en Suisse, ils ont un enjeu particulier au niveau de l'attention où leur cerveau a une difficulté à faire le rôle de chef d'orchestre. Leur cerveau a besoin d'une stimulation supplémentaire pour activer ses réseaux. C'est le but du livre d'ailleurs, d'avoir une discussion sur bien comprendre la différence entre un défi attentionnel et un trouble de l'attention.
Exactement. Ce livre est, alors je vais vraiment le dire à celles et ceux qui nous écoutent, totalement accessible. C'est à la fois extrêmement scientifique, puisqu'on dit c'est là d'où vous parlez, mais il est très pratique, il est très concret. Il vous donnera vraiment des pistes, et c'est ce qu'on va faire aussi dans cette émission sur une forme d'hygiène de vie, puisque beaucoup de choses passent par là en tout cas. Et je tiens à souligner aussi que ce livre est illustré par Lorraine Baudouin. Les images sont extrêmement parlantes. Et ces images qui sont plus parlantes finalement que les mots pour notre cerveau, on les saisit plus vite.
Tout à fait. Juste. Tout à fait. C'est scientifiquement démontré. Alors l'image parle mieux. Notre cerveau reconnaît mieux l'image que les mots. J'aime dire que Lorraine, elle est capable de lire dans mon cerveau et d'appliquer ce que je pense, ce que je veux traduire par une illustration.
L'humain a besoin de lenteur, de repos, de continuité. Notre époque nous prive de tout cela. Et plus c'est speed, plus il faut donner à notre cerveau le temps de pause. Il ne s'agit pas de partir dans un monastère, mais il s'agit de s'équilibrer. Ces mots, je les cite encore de votre ouvrage, mais ils sont de Christophe André. Notre cerveau aujourd'hui, Annick Vincent, est à la peine.
Notre cerveau, il a beaucoup de difficultés. Notre cerveau, il est bombardé d'informations. Notre cerveau, souvent, n'est pas reposé, n'a pas suffisamment dormi, peut avoir de la difficulté à avoir une rythmicité qui est saine. On peine aussi à prendre soin de soi. On a une pression de performance qu'on se donne et qu'on nous donne. Et on peut avoir aussi d'autres facteurs qui nous appartiennent, mais il y a les facteurs sociétaux aussi, auxquels ça vaut la peine qu'on parle. Est-ce qu'on est, par exemple, dans une société qui, pour chacun des membres de la société, fournit les éléments de base, hein, un toit sur la tête, une alimentation, un accès à l'éducation, un accès à la santé, qui sont des éléments de base? Est-ce qu'on a une proximité avec la nature? Parce qu'on sait qu'être en proximité avec la nature nous aide du côté de la santé physique, la santé mentale et bien entendu au niveau de notre attention.
Nous ne sommes évidemment pas à égalité, Annick Vincent, face à tout ça.
On ne sommes pas à égalité et même au courant d'une journée, au courant d'une vie, hein, il y a une fluctuation de notre capacité d'attention. Et c'est là où je pense que c'est important d'avoir cette compréhension-là, d'avoir aussi une autocompassion par rapport à notre niveau attentionnel et d'être capable de s'adapter et de rythmer. Je confie dans le livre au lecteur que j'ai eu moi-même des enjeux au niveau de la santé qui m'ont amené à me remettre en question et à tout redéfinir. Le qui suis-je, où vais-je, qui est très classique de chacun de nous, mais je l'ai vécu de façon aiguë il y a 4 ans, en pleine pandémie, quand j'ai eu moi-même eu un ennui de santé important. J'étais en arrêt de travail complet, j'avais envie de retourner, je n'étais pas capable, je n'avais pas l'énergie. Et à travers tout ça est né ce livre-là, qui est finalement un peu la combinaison de l'expertise de la clinicienne et qui justement partage tout ça avec des collègues et puis des patients depuis plus de 30 ans, mais aussi du vécu de la personne. Donc, c'est vraiment le mélange de la soignante et de la soignée qui est traduit dans ce livre-là.
Comment on mesure justement cette attention? Est-ce qu'elle peut se mesurer? Il n'y a pas de règle, évidemment.
Non, mais je pense qu'on peut s'en rendre compte. Quand, par exemple, on a l'esprit qui commence à s'en aller ailleurs, qu'on fait des erreurs d'inattention qu'on fait pas usuellement, par exemple. Si vous êtes rendu à l'étape de vous endormir à la tâche, je pense que c'est grand temps de lever les drapeaux. Mais bien avant ça, il y a des petits indices hein, qui peuvent nous dire, ben, je me sens en surcharge. Si je lis et je me rends compte que, voyons, j'ai perdu le fil.
Il faut toujours revenir. Voilà, c'est ça, 3 pages en arrière pour retrouver le fil, ça va pas.
Exactement. Ouais. Je suis en voiture et puis je me dis, mais par où je suis passée? J'étais complètement sur un mode automatique. Alors, une chance que, alors ça peut être des indices. Dans notre travail, il peut y avoir ou pas des impacts de petites erreurs d'inattention, d'errance, comme ce que je viens de noter, mais il peut y en avoir des grandes aussi, dépendamment de ce qu'on fait, et dans notre vie personnelle aussi, de ne pas porter attention à tous ces petits drapeaux hein, que notre corps et notre tête nous envoient. Ça aussi, ça a des impacts.
On se reconnaît tous dans le fait qu'il y a des jours où tout s'aligne, il y a des moments où les choses vont se faire de manière extrêmement fluide et des moments où on ne sait pas pourquoi ça va peiner. Alors dans les choses, j'anticipe un peu, mais dans les choses que vous dites, c'est qu'il y a aussi des cycles alors qui appartiennent à chacun, mais il y a quand même des espèces de moments comme ça de la journée qui sont plus propices que d'autres, de manière un peu plus générale, Annick Vincent. Hein.
Dans le livre, j'aborde des différents piliers de notre attention avec l'acronyme FOCUS. Le F, c'est la force, c'est notre niveau d'énergie. Le O, c'est l'orientation, comment on s'organise. Le C, c'est la centration, comment on est capable de se centrer à travers les stimuli extérieurs, mais aussi ce qui nous habite. Ensuite, le U, c'est le côté universel, donc comment, comme société, comme groupe, hein, on peut affecter l'attention des gens au sein du groupe. Et le S, c'est le sens. Alors, est-ce que ça fait sens pour moi? Et est-ce qu'il y a un sens entre mon intention et mes actions? Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui bascule, que ça m'appartienne ou pas, mon attention va fluctuer.
Je me faisais aussi la réflexion de cette attention qui, évidemment, va nous aider à être plus efficace, va nous aider dans les choses extrêmement pratiques. Mais cette émission qui parle beaucoup du lien à soi et du lien aux autres, je pensais aussi à cette attention qu'on doit avoir à l'autre. Parce que ce déficit d'attention qu'on a dans les tâches, dans les choses, encore une fois, extrêmement pratiques, elle ruisselle aussi sur l'attention que l'on a à l'autre.
Tout à fait. En fait, quand on peine à porter attention à soi, en général, on est mal équipé pour porter attention à l'autre. Et d'un autre côté, si on porte attention à l'autre au dépens de porter attention à soi, là aussi, on n'est pas en équilibre.
On va poursuivre notre émission avec vous, Annick Vincent, médecin psychiatre et spécialiste de ces questions d'attention, essentiellement centrées sur le TADA, mais qui, évidemment, dans ce dernier ouvrage, concerne vraiment monsieur et madame tout le monde. Mon cerveau a besoin de focus, sous-titré Maintenir sa concentration malgré les obstacles, et on verra qu'ils sont nombreux. Il est paru aux éditions de l'Homme, et on a aussi de la musique. C'est Elena Copsi qui va ouvrir le bal avec ce titre Flou. On se retrouve dans quelques minutes.
La lune est pleine et c'est la plénitude. Tout sentiment, j'avais pas l'habitude. Adieu les peurs et les incertitudes. Tout serait comme flotter dans l'air au-dessus. Comme quelque chose que je n'aurais jamais connu. Je courrais. Couler de l'eau sur les dunes. Y'a que nos cœurs qui font briller le ciel du sud. Et puis tout ce qui m'était défendu s'est évaporé, n'est pas revenu. Le premier jour tu restes déserté.
Sociaux, on questionne notre lien dans Égosystème chaque semaine.
Aujourd'hui dans Égosystème, nous parlons de concentration, nous parlons de faire le focus grâce à notre cerveau qui peut très bien fonctionner, mais qui a aussi, comme on le disait avec Annick Vincent, plein de raisons de fonctionner mal ou en tout cas d'avoir de grosses difficultés. Et ces grosses difficultés, vous les décrivez dans ce livre paru aux éditions de l'Homme. Une des conséquences, c'est la fatigue, évidemment. Ça épuise d'essayer de courir après une concentration, une attention que l'on n'a plus.
En fait, je pense qu'on peut même parler de l'attention en général. Il y a une attention qui est floue, qui nous demande très peu d'énergie. Et ensuite, quand on choisit d'orienter notre attention, donc de se concentrer, là embarque plein d'exercices mentaux qui est de laisser, par exemple, de côté les stimuli qui nous distraient, qui est de rester attentif à la tâche qu'on a choisi de faire, qui est des fois de faire une alternance, une danse entre une tâche à l'autre, ce qu'on appelle le multitasking, qui est en fait une succession de petites tâches qui sont faites en alternance en gardant le fantôme de la tâche précédente et de la tâche future dans notre tête. Tout ça, ça demande un exercice mental qui est une dépense énergétique. Et il faut savoir que se concentrer, donc, nous gruge de l'énergie et tout ce qui, je dirais, affecte notre batterie énergétique va aussi affecter notre capacité à nous centrer, bien entendu.
Donc, ça veut dire, si je vous entends bien, que cet encombrement cérébral avec toutes les choses qu'on doit faire et auxquelles on doit penser en même temps qu'on fait quelque chose, ou même le téléphone qui sonne, on débranche d'une tâche pour en reprendre une autre et revenir, etc. Finalement, c'est presque plus épuisant, cette espèce de Shiva, je vois plusieurs bras comme ça, c'est plus épuisant que si on doit vraiment et qu'on a la capacité, la possibilité de rester sur un seul job à la fois.
Tout à fait. Alors, ce que la science nous apprend, c'est que si on veut être efficace dans notre attention, il faut d'abord choisir ce sur quoi on veut se centrer. L'idée de l'attention intentionnelle. Ensuite, vraiment aménager notre espace extérieur pour minimiser l'impact des stimuli, mais aussi travailler sur notre espace intérieur pour être justement disponible émotionnellement par rapport à ce qu'on a choisi de faire. Ensuite, il faut savoir qu'on ne peut pas être en attention soutenue longtemps sans tomber en épuisement. Donc, on suggère de se mettre, par exemple, l'activité de type Pomodoro, où est-ce qu'on y va à coup de 25 minutes de tâches centrées, d'attention profonde, interrompue d'une pause, puis ensuite, on reprend. Et ça, c'est une façon, si quelqu'un veut vraiment être productif sur le plan attentionnel, c'est une belle façon de procéder.
Donc, 25 minutes, on se concentre. Et 5 minutes, et vous dites, c'est important que ces 5 minutes soient des minutes peut-être d'agitation du corps. On va lui redonner de l'attention.
En fait, on va bouger. Idéalement, on va se mettre en contact avec la nature, si on peut, ne serait-ce que regarder par la fenêtre. Et puis, donc, on va se détendre et on va justement permettre une recharge pour pouvoir repartir. Peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant qu'on essaie de se centrer comme ça, il va y en avoir des idées qui n'ont absolument aucun rapport avec notre tâche. C'est normal et sain. OK? Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Mais s'il y a des bonnes idées, on voudrait bien les attraper au vol. On pourrait les déposer en les écrivant, sans partir les faire. Et ensuite, lorsqu'on est en pause, on peut regarder notre liste d'idées qui ont popé pendant qu'on était en attention profonde et à ce moment-là, décider, bon, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce que je le garde en note? Est-ce que ça devient ma priorité maintenant? Ou encore, je le remets, je le place dans mon agenda pour plus tard ou je le place dans ma liste d'idées créatives d'un jour peut-être.
Ça pose quand même la question centrale de ce cerveau que l'on ne maîtrise pas. En fait, notre cerveau, c'est comme s'il avait une vie propre. C'est assez drôle. Jusqu'à quel point est-ce qu'on maîtrise tout ça? On ne maîtrise rien, en fait.
Ben, je pense qu'on ne devrait pas tout maîtriser. On ne devrait pas chercher à tout maîtriser parce que, justement, cette créativité-là, si on était juste dans un carcan, on ne l'aurait pas. Donc, je pense qu'il faut se donner ce privilège de se laisser aller, d'aller se promener dans notre tête. Et c'est ce qu'on appelle le vagabondage des idées volontaires. Je pense qu'il faut apprendre à nos enfants à s'ennuyer, à attendre et à laisser venir justement cette créativité-là. Si nous, on s'est détaché du regard justement de l'enfant qui est en mode d'émerveillement, d'apprentissage, de tout et de rien, ça vaut la peine d'y retourner aussi. Par moment. Les grandes idées novatrices sont en général créées à ces moments-là. Donc, de chercher à normer, rigidifier et encarcaner nos idées, je pense que c'est vraiment pas une bonne avenue.
C'est donc ce que vous appelez le vagabondage. Et puisque vous ouvrez la question des enfants, c'est vrai que les digital natives aujourd'hui, ceux qui sont nés avec les écrans, auront-ils encore ce sens du vagabondage? La question est ouverte. Vous parlez évidemment des écrans, on va pas forcément y passer toute l'émission, mais c'est peut-être important de dire à quel point vous en mesurez l'impact justement sur notre capacité de vagabondage, sur notre capacité de concentration. Voilà, tout le monde le dit et vous le dites aussi de votre point de vue de médecin psychiatre spécialiste justement de tout ça, il y a des impacts évidemment.
En fait, ça nous inquiète de voir cette espèce d'action dans l'urgence, de ne plus être en capacité d'attente, de se bombarder d'activités. L'adulte d'aujourd'hui, standard en général, ne tolère pas être en situation d'attente et d'être juste en contact avec lui-même. Il va s'entourer, il va être en mode évitement, il va s'entourer d'actions, s'entourer de bruit, s'entourer de toutes sortes de choses. Alors, c'est sûr que le pauvre enfant, lui, il n'y a personne qui va lui montrer si nous, on ne change pas ces attitudes-là.
Et nous, qui avons connu en plus un autre modèle.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a complètement basculé. Et en fait, les enfants qui n'auront jamais eu même d'autres modèles dans leurs années d'enfance, puisqu'ils naissent avec ce rythme-là, en fait, ça va de manière exponentielle, tout ça.
Ça inquiète beaucoup. ceux qui s'occupent de nos enfants sur le plan des cliniciens et des chercheurs, de voir cette espèce de développement dans l'impulsivité, dans la difficulté à attendre. C'est certain que ça va avoir un impact sur le développement des capacités attentionnelles. On commence à le voir d'ailleurs. Le span attentionnel de l'adulte moyen se réduit d'année en année actuellement. Donc, ça, il y a beaucoup de drapeaux qui lèvent au niveau de la recherche et puis des cliniciens sur le terrain. Et je pense que monsieur, madame, tout le monde s'en rend compte et cherche à justement amener, peut-être changer de voie. Hein, de dire, bon, ben là, c'est correct, je m'en rends compte. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Et c'est toutes les questions que vous posez dans votre livre où il y a des stratégies extrêmement différentes, mais c'est un vrai sujet de société qui agite évidemment le vieux continent et qui vous agite aussi du côté du Canada. Vous avez pris, enfin, je sais pas, peut-être des mesures où il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, justement, une réflexion qui pourrait peut-être inspirer l'Europe que nous sommes.
Je ne sais pas par chez vous, mais chez nous, les écrans sont... Il y a une réflexion par rapport à l'accessibilité, par exemple, au portable en classe. Donc, il y a des changements de ce côté-là. Il y a une réflexion par rapport à l'apprentissage sur écran versus l'apprentissage papier, tableau classique, etc. On souhaite que les familles redeviennent connectées, mais connectées humainement et non pas connectés à être tous sur leur appareil, mais dans la même pièce. Mais ce qui est important de savoir, c'est quand notre cerveau se développe, il se développe tout le temps. D'accord, on n'est pas complètement... Mais dans la grande phase de plasticité neuronale de l'enfance, tout ce qui est implanté comme une routine trace des chemins dans notre cerveau. Donc, plus on fait quelque chose de façon régulière et souvent, plus ça s'est tracé comme un grand sentier dans notre cerveau.
Et plus c'est facile.
Et plus c'est facile. Et tout le reste va rester en broussaille. Donc, on a vraiment un avantage à implanter ces stratégies-là tôt dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard plus tard, mais ça vaut vraiment la peine de le faire dès l'enfance. Même si pour le parent, ça veut dire plus de temps, plus de supervision, plus d'imprévus, ainsi de suite. C'est un énorme investissement.
Et pour les parents, ça veut aussi dire moins d'écran, entre parenthèses. Hein?
Oui, tout à fait.
On va fermer ce chapitre des écrans parce que c'est vrai qu'on y a consacré déjà quelques émissions. Mais en matière de causes, de difficultés d'attention, Annick Vincent, vous ne pointez pas que ça. Et il y a, mais un peu directement lié d'ailleurs aux écrans, il y a l'histoire du sommeil. Vous dites voilà qu'on a perdu, je crois que c'est une heure de sommeil dans les 20 dernières années.
Dans les 50 dernières années, l'humain dit standard, moderne, dort une heure de moins. Dans mon domaine, on sait que une heure de sommeil manquée implique des difficultés attentionnelles le lendemain qui ressemblent étrangement à celles d'un TDAH.
On l'a tous vécu, c'est-à-dire le lendemain d'une nuit courte, on n'est pas à son affaire, pour le dire, vraiment.
On n'est pas à son affaire sur le plan attentionnel, on peut prendre des décisions qui sont impulsives, on a plus de difficultés à s'autogérer au niveau des émotions. Et progressivement, si ça perdure, si on est en privation de sommeil ou en insomnie pour une longue période ou si on fait de l'apnée du sommeil, mais ça n'a pas été reconnu, il y a des impacts sur la santé physique aussi qui embarquent. On est plus à risque de faire des accidents. On est plus à risque aussi de développer des problématiques d'obésité, de troubles métaboliques, de troubles cardiovasculaires. Et on sait maintenant que quelqu'un, par exemple, qui fait de l'insomnie chronique est à risque de développer d'autres problématiques de santé au point où ça peut diminuer son nombre d'années de vie en santé et même diminuer son nombre d'années de vie, point. C'est pas banal. Prendre soin de son sommeil, c'est tellement important que mon premier jet d'écriture du livre, le sommeil, et en prendre soin, prenait le tiers du livre. Ça vous donne une idée. Alors, ceux qui vivent avec l'illusion que sur semaine, je peux m'endetter et je dormirai en fin de semaine, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme si vous vous disiez, ben, je vais m'endetter avec ma carte de crédit et je paierai ma carte de crédit à la fin de l'année. Et non. Il y a une dette de sommeil qui s'accumule avec un taux d'intérêt assez élevé, merci.
Alors, le stress qui perturbe les fonctions cognitives, le débordement, la surcharge cognitive, la multiplication des informations, les sollicitations qui saturent notre cerveau, une surcharge émotionnelle, c'est quelques-unes des causes que vous pointez. On peut choisir de couper un certain nombre de choses, mais il y en a certaines sur lesquelles on aura de la peine à agir, évidemment.
Et c'est là où est-ce que ça vaut la peine de regarder, il est où mon pouvoir d'agir ici maintenant? Mon pouvoir d'agir, par exemple, par rapport au stress, il y a peut-être des stresseurs sur lesquels je n'ai aucun pouvoir, mais peut-être que je peux travailler ma résilience, par exemple. Donc, on a un grand chapitre qui est dédié justement à comment on cultive notre résilience. Notre résilience, elle se cultive comme un muscle se cultive quand on fait de l'activité physique. Nous pouvons, par différents types d'activités, cultiver notre capacité à rebondir en situation de stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas stressé. Ça ne veut pas dire que le stress ne sera pas là, mais on va en sortir, je dirais, moins affecté dans tous les sens du terme. Donc, il y a Rachel Thibault, qui est une Canadienne avec qui j'ai eu la chance là, d'avoir plusieurs échanges, qui est spécialisée en résilience humaine, et elle a eu la gentillesse, et je dirais plus que la gentillesse, la bienveillance, hein, de m'accompagner dans la rédaction de cette section-là du livre par rapport à justement comment on peut travailler notre résilience personnelle, mais aussi notre résilience collective en tant que groupe.
On va faire des impasses, évidemment, et puis en plus, il est très difficile de décrire les petits dessins, mais je vous promets que si vous vous plongez dans le livre, vous aurez vraiment les petits dessins, les illustrations qui vous permettront de comprendre avec des petits bonhommes. C'est vraiment extrêmement réussi. Je rappelle le titre de l'ouvrage de notre invité, Annick Vincent a écrit « Mon cerveau a besoin de focus, maintenir sa concentration malgré les obstacles ». On a vu, ils sont nombreux, mais on a des solutions et on va en parler. Il est paru aux éditions de L'Homme, cet essai. Et je vous propose « Anxiety », c'est un titre signé Doichi et c'est un choix de Bastien Arnold pour nous accompagner dans les quelques minutes qui viennent et on reviendra juste après.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
réécouter l'émission du jour et les plus anciennes. Pour trouver de plus amples informations, retrouvez Égosystème sur l'application Play RTS.
Nous recevons aujourd'hui le docteur Annick Vincent, qui est médecin psychiatre, longue expérience autour du TADA, une des grandes spécialistes, donc ces troubles de l'attention. Enseignante à l'université, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, Annick Vincent.
Tout à fait.
Conférence autrice de ce livre « Mon cerveau a besoin de focus », donc paru aux éditions de l'Homme. On a essayé de vous rendre attentif aux causes et surtout aux conséquences du manque d'attention. Maintenant, comme votre livre l'est, on va essayer d'être extrêmement pratique dans les solutions. On a déjà commencé à en aborder quelques-unes. Le sommeil, dont vous dites qu'il occupait un tiers de votre livre aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins le cas, mais je veux dire, ce sommeil est central. Vous donnez quand même des pistes autour de la méditation, vous donnez des pistes autour de la respiration. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui passent par le corps et qui pourront nous aider à retrouver une forme de paix et peut-être un meilleur sommeil, Annick Vincent.
Oui, en fait, souvent le mot méditation peut faire peur. Donc, peut-être qu'on peut dire sans cri, hein, d'être en pleine conscience. Donc, peut-être que ça, c'est plus accessible. Et on peut s'ancrer sur notre respiration. Alors, on peut choisir que, par exemple, dans la prochaine minute ou dans les deux prochaines minutes, je vais me centrer sur l'air qui entre et l'air qui sort. Et pendant ce temps-là, je vais donc orienter mon attention sur le fait de respirer et sur l'air qui circule. Je vais avoir des idées pendant ce temps-là. Mon cerveau, il sécrète des idées comme ma bouche sécrète de la salive. C'est correct et c'est normal. Je vais juste, quand je me rends compte que je divague, je vais me ramener, donc réorienter mon attention sur ma respiration. Et je le fais sans jugement, avec bienveillance. Et c'est un petit exercice qui paraît tout simple, mais qui est extrêmement complexe et qui est un entraînement attentionnel qu'on peut faire partout. Pas besoin de le faire juste au coucher. L'idéal, c'est de faire ces petits exercices-là en cours de journée aussi. On peut le faire pour se centrer avant de faire une activité, mais on peut le faire aussi de façon régulière. On peut le faire, par exemple, dans le cadre de notre travail, entre deux rencontres, entre deux téléphones. On peut le faire en marchant. On peut choisir un autre axe de centration aussi. Ça peut être le bruit, le son des oiseaux, ça peut être... Mais de prendre l'habitude d'axer notre attention sur quelque chose de neutre et de se connecter, ça, c'est un exercice qui est très précieux.
Alors, si je vous entends bien, c'est une sorte d'entraînement parce qu'en fait, notre capacité d'attention et de concentration peut s'entraîner, Annick Vincent. Qu'est-ce que ça va faire, le fait de faire ces petits exercices?
En fait, ça nous aide à réorienter. Imaginez-vous l'attention diffuse comme étant une lampe dont le faisceau est extrêmement large. Et la concentration comme une lampe qui rassemble et qui remet le focus. Et là, vous avez cette lampe sur le front. Donc, si vous regardez, par exemple, vers la gauche, votre focus se dirige vers là. Et si c'est votre choix de regarder par là, c'est parfait. Mais il y a des moments où, en dehors de votre contrôle, votre attention va diverger. Et vous changez de chemin. Quand on travaille en pleine conscience, quand on entraîne notre capacité d'être en pleine conscience, on va remarquer le changement de direction du focus et on va le ramener gentiment à là où on avait choisi d'orienter notre attention.
Donc, il y a des choses extrêmement concrètes à faire aussi au niveau de nos émotions. Le jour où je suis triste, j'ai appris une mauvaise nouvelle, enfin, rien ne va. Je n'arrive pas à me concentrer à la tâche, évidemment. Même si j'aimerais bien, parce que ça me permettrait d'oublier le reste. Mais en fait, les émotions envahissent tout. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait?
En fait, les émotions, d'abord, il ne faudrait pas les démoniser. Les émotions, elles sont là pour nous aider. Autant la joie que l'anxiété, que la tristesse, que la colère et même le dégoût, hein, qui sont des émotions de base, elles sont là comme des drapeaux pour nous indiquer si je vais bien ou si je ne vais pas bien. Et ça vaut la peine de reconnaître leur présence. Quand elles deviennent trop envahissantes, là, ça vaut la peine aussi de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour justement regarder, il est où mon pouvoir d'agir par rapport à la source que j'ai identifiée? Alors, attention pour ne pas démoniser actuellement, de notre côté de l'Atlantique, c'est comme s'il ne fallait pas ressentir de l'anxiété, qu'il ne fallait pas être triste, qu'il ne fallait pas être en colère, alors que dans les faits, c'est tout à fait normal et sain de ressentir des émotions. Maintenant, quand l'émotion elle est trop forte, effectivement, elle vient envahir un espace mental qui nous laisse très, très peu d'espace pour être capable de se centrer sur autre chose. D'où de travailler sur la gestion de nos émotions. Donc ça veut dire de valider la présence de l'émotion. Au même titre que si on intervient auprès d'un enfant ou auprès d'un proche ou comme professionnel, il faut valider cette émotion-là. Là, après ça, il faut se calmer. La première étape, c'est comme si vous étiez en navigation. Okay? Vous venez de constater que le vent est fort. Il n'est pas question de continuer pleine voile d'or. Il va falloir que vous vous ancriez. Alors, trouvez une façon de se déposer, qui peut être par la respiration, qui peut être par l'activité physique, qui peut être par aller sortir prendre une marche. Donc, trouvez vos stratégies, mais déposez-vous. C'est une fois déposé que là, vous allez pouvoir vous regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis où j'étais dans cet état-là? Et ensuite, vous allez pouvoir faire des choix éclairés pour agir plutôt qu'en être en mode réactif. C'est un des éléments là, qu'on discute dans le chapitre de la gestion des émotions.
Et est-ce que je vous dépose là maintenant sur la table ce mot de motivation? Il est important aussi ce mot de motivation. D'abord, se motiver à un changement, c'est hyper important. Et puis, la motivation dans la concentration, c'est un sujet en soi aussi. Elle est partout, la motivation.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan neurobiologique, la motivation agit comme un stimulant. Donc, elle vient justement activer tout le réseau qui nous permet d'être attentifs et d'orienter notre attention.
Et c'est pour ça qu'on aimerait qu'elle soit là plus souvent, mais que des fois, elle nous lâche et puis on est bien démunis.
Et c'est là de faire la distinction entre la motivation qui nous vient de l'extérieur et la motivation qui vient de nous. Et la motivation qui vient de nous implique qu'on se connaisse, qu'on sache qui on est, quelles sont nos valeurs. Et vous allez remarquer, si on est capable d'aligner nos intentions et nos actions par rapport à qui on est, notre attention, elle se porte beaucoup mieux, notre santé mentale aussi d'ailleurs. Le changement ne peut pas venir de l'extérieur. Le changement, il doit venir de nous. Il y a l'évitement très classique où on ne veut pas voir, on est en déni, mais il y a l'évitement aussi par l'action. On peut avoir l'évitement par la consommation, alcool, drogue, ça peut être une consommation d'activité, ça peut être une consommation au niveau de la sexualité ou d'autres. Et donc, pendant ce temps-là, on occupe notre esprit à ne pas voir. Une grosse partie du travail qu'on fait sur soi, c'est justement d'apprendre à éviter l'évitement, d'accepter d'être en contact avec notre vécu émotionnel, qui va nous permettre justement d'avoir un meilleur développement de soi, retravailler sur notre motivation, réorienter notre axe entre qui je suis, ce que je dis que je vais faire et ce que je fais. Effectivement, c'est un long travail.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous faisiez référence à votre histoire personnelle, c'est-à-dire que vous avez vous-même, étant consciente et ayant travaillé, accompagné des patients en tant que médecin sur ce chemin-là, le jour où vous vous êtes retrouvée dans la situation, ça n'a pas été non plus si simple. Même si en théorie, vous connaissiez tout le mode d'emploi et l'avancée du chemin.
Il y avait vraiment un clivage entre ce que mon intellect me disait et ce que... Ce que mes émotions et mon cœur me disaient, c'est ben voyons, non, ça se peut pas. J'avais le même cycle. Et vous remarquerez que c'est beaucoup la description d'un deuil. Hein, la première étape, c'est le déni. Après ça, c'est non, la colère ou la révolte. Et ça se termine bien en général. Ça se termine par l'acceptation et la mobilisation. Mais le chemin peut être long et ardu et ça arrive qu'on s'enfarge. Sincèrement, on va s'enfarger. Mais l'important, c'est...
Ça veut dire quoi, s'enfarger? Parce que depuis, je trouve, vous faites des efforts incroyables pour nous parler et qu'on comprenne chaque mot, mais celui-là, il m'échappe.
Dans le patois québécois, s'enfarger veut dire que, par exemple, si vous êtes en marche et que vous prenez les pieds, on en ressort les genoux tout graffinés, là. Alors donc, c'est vraiment presque une culbute, s'enfarger. Mais ça implique aussi qu'on est en chemin. Ça veut dire qu'on accepte le risque de tomber. Et qu'en tombant, il faut avoir la gentillesse de se dire, ben, je vais me relever. Et je vais apprendre de ce qui m'a fait tomber. Et par la suite, je vais continuer mon chemin. Le chemin, il est rarement une ligne droite, d'ailleurs.
Mais ce qui est fou, c'est que derrière ce sujet de la concentration et de l'attention, en fait, quand on déroule le fil, la pelote, elle est énorme. Et c'est vraiment une remise en question qui est puissante et profonde. à laquelle vous nous invitez.
Et c'est intéressant parce que même le mot attention, on parle de l'attention sur le plan de la concentration, mais on parle aussi de porter attention à soi, de porter attention à l'autre. Le jeune qui évolue, à qui on dit « fais attention », attention dans le sens danger, on a choisi dans la langue française justement d'incorporer toutes ces notions-là dans le mot attention et c'est pas pour rien. Ouais. J'aimerais bien qu'un jour mon livre soit en anglais, mais si jamais il est traduit dans d'autres langues, je serais très intéressée de voir si culturellement le mot attention porte justement les deux sens.
Annick Vincent a écrit « Mon cerveau a besoin de focus, comment maintenir sa concentration malgré les obstacles ». On va être très pratico-pratique comme vous l'êtes dans votre livre dans la dernière partie. Il est paru aux éditions de l'Homme et sur RTS Première, on va écouter Casimir M avec Les Nuits Brèves. On parlait du sommeil et on y revient. C'est l'heure de la sieste, mais je crois que vous êtes quand même resté bien réveillé. À tout de suite.
Mes frères, j'ai vu des rêves s'envoler en éclats. Mais même dans mes nuits brèves, les miens sont toujours là. Et quitte à vivre au jour le jour, autant déballer notre amour, le reste peut bien attendre un peu. Et s'il ne reste plus qu'un jour, autant achever notre amour, ensuite juste se dire adieu. J'ai peur, autant le dire, ton rire sonne déjà lourd. Jour le jour, autant dépasser notre amour, le reste peut toujours attendre un peu. Et quitte à vivre en dernier jour, autant avaler notre amour, bannir la saveur des adieux.
Chaque samedi, entre 13h et 14h, Écosystème sur RTS Première.
Dernière partie d'Écosystème, comme nous le suggère Annick Vincent, il y a des petites choses, comme des grandes choses d'ailleurs, à mettre en place. Mon cerveau a besoin de focus aux éditions de l'Homme pour cultiver notre attention à soi, aux autres, attention qui aussi nous manque dans la concentration. Et dans cette dernière partie, j'aimerais que nous parlions des objectifs, les acronymes puisque vous les aimez, pour être focus. Il faut se fixer un objectif, mais un objectif SMART. SMART comme spécifique ou simple, mesurable, acceptable ou atteignable et réaliste. Était comme temporellement défini.
En fait, cet acronyme, on l'emprunte à la business. Donc, le monde des affaires utilise ce type d'objectif-là depuis longtemps. Et même, je dirais, tout le monde médical en soi, quand on regarde des mises en action qu'on met en place quand on a des problématiques de santé X ou Y, l'acronyme SMART est vraiment aidant. Il faut se rappeler que si on veut réussir notre objectif, il faut que notre cible soit bien définie. Alors, si je vous dis, moi, je veux être plus attentionné, ou je veux mieux dormir, où je veux avoir une meilleure gestion des émotions.
C'est trop vague?
C'est une intention, mais on ne peut pas dire que c'est un objectif. Si je veux mieux dormir, si je vous disais, moi je vais éteindre les écrans une heure avant de me coucher, et le matin, je vais me réveiller à heure fixe pour installer une rythmicité, là j'ai l'acronyme SMART. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, en tout cas pour moi. Ça pourrait être un trop gros objectif pour d'autres ou pas assez pour d'autres, mais et c'est réaliste et en un temps donné. Donc, dans l'objectif que je vous ai nommé tout à l'heure, il faudrait aussi que je vous dise, je vais le faire pour combien de temps et quand est-ce que je vais le mesurer. Il faut savoir aussi que tout changement pour l'implanter nous demande un minimum de 6 semaines.
Ah, moi, je croyais 3.
6 semaines pour l'engager, rester dessus, s'enfarger, comme on disait tout à l'heure, et finalement le mettre en place et le maintenir. 6 semaines, c'est court. Souvent, c'est plus que ça. Alors, attention, on y va petit pas. Le succès va venir justement par ces petits pas-là et avec persévérance. Et ça veut dire aussi qu'on accepte le fait qu'on va se tromper. Il faut voir l'erreur comme source d'apprentissage plutôt que se taper sur la tête. Et c'est pas toujours facile. Et si en plus on le partage à quelqu'un qu'on aime bien, qu'on sait qu'il va pouvoir nous accompagner dans le chemin, on a une chance de plus d'y arriver. Et donc on y va et on progresse. Et une fois qu'on l'a bien implanté, bien maintenu, on se félicite, c'est sûr. Mais en chemin, on s'est félicité aussi des efforts qu'on a mis en place. Donc, c'est pas seulement une fois rendu sur le haut de la montagne qu'on dit « bravo, la grande, t'as réussi », mais en chemin aussi. Et en chemin, on prend le temps aussi de regarder le chemin parcouru et non pas juste le chemin à parcourir. Par exemple, quand je vais manger, je vais fermer mon téléphone, je vais le mettre de côté, ou c'est à tel moment, ou ça pourrait être à chacun des repas. De dire « je vais limiter ma quantité d'écran », c'est encore là trop large. Il faut vraiment avoir le moyen dans notre objectif pour être capable de le mesurer.
J'aime bien aussi quand vous parlez de listes. Alors, je suis moi-même très spécialiste des listes, des listes de choses à faire. Et j'ai l'impression que, et ça, la médecin psychiatre que vous êtes va me confirmer probablement ça, j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est posé, c'est comme si ça n'encombrait plus mon cerveau. Et ça m'aide à me concentrer sur ce que je dois faire ligne par ligne. C'est juste?
C'est juste, particulièrement si vous vous êtes fait une liste qui est raisonnable et que vous pouvez faire dans le temps que vous avez dédié. Alors, si vous avez, par exemple, procrastiné énormément et vous déplacez votre liste de journée en journée et là, votre liste du mois est apparue sur votre agenda ce matin, vous risquez d'être anxieuse. Alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on met dans la liste pour que justement cette liste-là reste atteignable et réaliste dans un temps donné. Ce qui nous amène à la notion de procrastiner de façon efficace.
Voilà, alors j'allais vous le dire parce que alors ça, j'ai découvert dans votre ouvrage une procrastination efficace et je me réjouis que vous nous expliquiez.
Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que procrastiner, c'est remettre à plus tard. Et qu'est-ce qui se passe quand on a remis à plus tard et qu'on est confronté à l'échéancier? En général, il y a vraiment c'est une situation de stress qui vient stimuler notre cortisol, qui vient stimuler notre catécholamine et la dopamine. Et là, notre cerveau baigne dans la dopamine à la dernière des dernières minutes. D'ailleurs, les gens qui ont un TDAH sont des experts dans la procrastination et vont dire qu'ils sont vraiment plus efficaces quand ils sont justement stimulés par cette dernière minute.
Quand ils sont à la limite.
Tout à fait. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont plus efficaces quand vous êtes à la limite de la limite, s'il vous plaît, faites-vous plein de petites dernières minutes et non pas une grosse dernière minute. Vous prenez votre grosse tâche, vous la découpez en petites étapes et chacune de ces petites tâches-là, vous la placez à un moment précis de l'agenda. Et c'est là où certaines personnes disent « oui, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas ». C'est qu'en général, ils ne l'ont pas mis dans l'agenda avec un échéancier pour chacune des étapes. Quand on fait ça, si on est très anxieux par rapport à la tâche à faire, ça dépose justement et ça libère un espace dans notre tête. Et si on est du genre procrastinateur efficace à la dernière minute, on se donne plein de belles opportunités pour procrastiner et être efficace.
C'est extrêmement pratique et concret. Vous parlez d'organisation d'espaces de travail avec des codes couleurs, des agendas extrêmement clairs. Faire une tâche à la fois pour éviter l'éparpillement. Se récompenser aussi. J'ai noté ça. Ça me plaît bien. Se récompenser après une séance de travail. En quoi ça va nous aider à nous concentrer d'ailleurs, ça?
En fait, la motivation est un facteur qui aide notre attention. On se l'est dit tout à l'heure.
Mais la récompense, ça motive. Donc,
la récompense nous met en mode action. Et la récompense qui est immédiatement, qui fait suite à ce qu'on a fait. Pas la récompense à la fin de la semaine ou dans un mois ou dans un an. C'est une récompense immédiate. Ça veut pas dire que vous allez déposer de l'argent dans votre compte de banque pour vous récompenser. OK? Ça peut être, par exemple, vous allez faire une activité qui vous plaît. Vous pouvez aussi vous féliciter. Ça aussi, c'est une récompense. Et c'est une récompense qui ne coûte rien et qui va justement faire grandir votre estime de vous-même. Pour nos enfants, c'est pareil. Plus nos enfants sont encouragés, et on n'encourage pas le résultat, on encourage l'effort, nuance. C'est sûr qu'on veut un résultat éventuellement, OK? Mais c'est surtout l'effort. Donc, c'est pas rendu à la fin. Bravo, t'as franchi ton Himalaya. T'as réussi à commencer. T'as réussi à te maintenir sur la tâche. Mais tant mieux. Alors moi, dans ma tête, je me dis bravo ma grande. Et puis pour commencer, on va y arriver. On va y arriver.
Et j'aimerais qu'on termine par ce message que je trouve d'un optimisme absolu et que j'aime bien répéter. Quelques invités nous l'ont déjà glissé dans l'oreille. Ce serait peut-être bien de le répéter avant de se quitter, cette fameuse loi de Pareto qui dit qu'effectivement, cette règle des 80-20, environ 80% des effets sont le résultat de seulement 20% des causes. On n'en prend pas assez conscience. C'est magique, ça.
En fait, c'est là où ça nous amène à qu'est-ce qui fait sens pour vous? Il est où l'essentiel ici, maintenant? Et je vais mettre mes énergies à ces niveaux-là. Je parle des acronymes. Dans ma situation à moi, je fais ma réanimation cardio-respiratoire tous les matins, mon RCR. Hein? Donc, le matin, je regarde aujourd'hui comment je vais travailler ma résilience. Ça, c'est le R. Le C, comment je vais me centrer sur l'essentiel. Donc, justement, où je mets mes énergies, mon fameux 20% qui va pouvoir amener 80% des résultats. Et le R, quel sera mon rythme? Et le soir, je me couche avec la stratégie qui m'a été partagée par Rachel Thibault, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est spécialisée en résilience, qui s'appelle la gravure 3B. Et non pas 3D. La gravure 3B nous amène à vraiment remémorer et graver dans notre tête trois éléments dans la journée qui ont été beaux, bien et bons. Et derrière ça, il y a toute une neuroscience qui fait que je vais justement engraver des chemins. En faisant cette stratégie de gratitude-là, j'engrave des chemins qui vont m'amener vers une résilience. Et donc, il y a une boucle qui s'installe parce que deux jours, je vais aussi me mettre à remarquer les trois B. Le beau, le bon et le bien. Je ne deviens pas licorne en soi, OK? Mais j'amène un certain balancement qui fait que devant l'adversité, je continue. Hein, je lève les manches et je continue. Et puis, j'arrive à cheminer malgré justement les tourbillons. Et Dieu sait qu'il y a une autre des tourbillons actuellement.
Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que vous êtes une femme de science, médecin, psychiatre, vous êtes spécialiste de toutes ces questions de cerveau. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'on peut mettre de la magie là-dedans. Ces petits gris-gris-là, ce sont des vrais accompagnements de vie et de santé. Mon cerveau a besoin de focus. Maintenir sa concentration malgré les obstacles est paru aux éditions de l'Homme. Et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, Annick Vincent.
Merci énormément pour la belle invitation et les moments magiques.
À une prochaine fois avec grande joie. Au revoir. Merci.
Au revoir. I send you all my love.
C'était dans les années 80 que Chris Rea avait choisi d'écrire cette déclaration d'amour à Joséphine, exhumée aujourd'hui par Bastien Arnold, notre programmateur. Aujourd'hui, Annick Vincent était notre invitée. Mon cerveau a besoin de focus aux éditions de L'Homme. Si vous avez envie de réécouter cette émission, vous pouvez aller sur le Play et sur le site rts.ch aussi. Vous avez plusieurs possibilités pour nous réécouter ainsi que les émissions passées.
Égosystème, Florence Farion.
RTS Première, il est 23h.